vous faites. All right.
En fait, j'ose avec des gens qui sont justement dans les services d'urgence pour préparer des plans d'intervention, d'évacuation et tout ça. Puis on me dit qu'effectivement, dans tous les hôpitaux de la grande région de Québec, il y a ce type de plan-là qui est bien déterminé, qui est à la connaissance de tous les employés.
Je suis contente parce que je voulais pas parler à travers mon chapeau, mais là, tu venais de me titiller la fibre incendie.
C'est un nez à feu, les hôpitaux, on va se le dire. Mais moi, c'est plus les gens qui sont en train de se faire opérer, là. Mettons que t'es dans le coma.
Mais on a parlé, t'en rappelles pas, on avait parlé à un médecin, qui est un chirurgien, qui est, on avait jasé avec lui, puis on lui avait dit, si vous opérez, puis il y a le feu, il se passe quoi? Il dit, on est pris là, mais on est aussi en sécurité par rapport aux flammes. Comme quoi, il y a vraiment des murs coupe-feu, puis qu'on peut même continuer l'opération si jamais
c'est c'est sûr qu'il doit y avoir des dispositifs qui ont été mis en place, puis j'ai demandé au contact qui nous a écrit si ça tentait de venir faire un tour pour nous parler de ça. Comment ça se passe dans les hôpitaux, justement, en cas d'incendie? Qu'est-ce qui a été prévu? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit se comporter? C'est sûr et certain que si t'es dans le coma, c'est pas ton problème. C'est les autres qui doivent s'occuper de toi.
Mais pour le reste... t'as le coup, ça le soit, dans le sens où qu'on t'oublie pas là.
Ouais, c'est ça. Hey, on passe à un tout autre sujet, un sujet franchement intéressant puisque ça nous touche toute la gang. C'est le sujet des finances. Notre chum Pat Raymond est en studio. C'est le grand retour de Pat Raymond.
Allô!
Qui n'était pas là la semaine passée. Il nous a manqué. Pascal pleurait. Pat Raymond un ex-gestionnaire de patrimoine et un ex-soldat de l'armée canadienne aussi.
Ben oui.
Il est avec nous. On est content de t'avoir. Comment ça va?
Je suis l'ex de tout maintenant.
Eh oui!
C'est bon ça être l'ex de tout.
Tu es rendu célibataire, quoi donc?
Je sais pas si c'est positif finalement. Je suis arrivé à un seuil où je suis l'ex de ci, l'ex
oui.
de ça.
Elle mais... sait-tu que t'es célibataire? Si as-tu dit?
Peut-être qu'il va devenir l'ex aujourd'hui en l'entendant radio.
Ah, heureusement, non, j'ai la même depuis près de 20 ans quand même.
C'est beau, ça.
Ta belle-mère, c'est le fun. Ta belle-mère qui apprend qu'à faire son gendre en ondes.
Ouais, j'ai aussi la même belle-mère depuis 20 ans. Et là, ça vient ensemble.
T'as changerais-tu des fois?
Ben, des fois, oui, absolument. On la salue.
T'as répondu oui en
ben
plus,
oui.
Pat.
On fait des blagues. C'est pour ça qu'elle nous apprécie autant.
Oui, voilà. Parce que, tu sais, dans chaque blague, il y a un fond de vérité. Fait que là, j'ai goût d'aller gratter, mais je vais m'abstenir, moi.
Ah, oui.
Ouais. Je me souviens, on m'avait déjà dit, ça fait longtemps de ça, est-ce que je peux amener ma mère en voyage? C'était un voyage d'amoureux, là. Puis j'avais dit, ça serait intéressant, mais non.
Sais-tu quoi? Je suis d'accord.
Oui. Puis là, elle m'avait dit, mais là, c'est parce qu'elle file pas, c'est ancien, elle est malade. J'ai dit, OK, c'est
là,
beau. C'est
beau. Pas vrai.
Fait que ça a été une semaine, pas de sexe.
Parce que vous dormiez les trois dans le même lit, voyons.
On était dans une chambre de quatre, là, deux lits doubles, puis elle dormait avec nous, mais dans l'autre lit, là. Mais
c'est correct, que t'avais pas touché ta blonde.
On fréquente pas les mêmes sites, Pascal. Ça existe pas dans notre monde, ça. Hey, en finance, on parle de la règle du pouce en finance personnelle, mon ami.
Oui, la fameuse règle du pouce. Puis moi, je m'amuse avec ça, même dans mon podcast Financièrement parlant. J'aime y aller comme ça avec les règles du pouce. Il y a un petit côté loufoque, mais en même temps, il y a un côté qui est quand même été avec le temps vérifié. Ça vient souvent de certains experts. Je ne vous ai pas sorti toutes les sources, là, mais des règles, par exemple, de budget. On est super. On va commencer avec la première. J'en ai quelques-unes. Vous m'arrêterez.
C'est sous forme de quiz.
Oui, mais tu sais, c'est ça. Si mettons, si je vous demande la règle du 50-30-20, d'abord, est-ce que ça vous dit quelque chose?
La règle comme ça? Du 50-30-20, on arrive à 100, fait que c'est déjà un bon départ.
C'est une affaire du genre économie 20-50, dépenses genre logement, besoin.
Elle s'en vient, elle, là, elle arrive. Là. Bon, ouais.
Elle s'en vient, mais elle s'en vient pas vite parce qu'il manque le 30.
Le logement, mais je pense que le logement, ça pourrait être ton 30%.
Puis après ça, le reste, ce serait le 50, mettons, tout le reste des besoins.
Le 50, oui.
On y arrive. Un petit 10 minutes de plus, puis vous y arriviez. Mais je vais intervenir quand même en vous disant que... Puis là, ça va bien, j'ai ça décrit devant moi. Mais je le savais d'une certaine façon. Mais allouer 50 % de vos revenus aux dépenses essentielles, le logement, l'alimentation, les dépenses... La pyramide de Maslow, là.
Okay.
Les dépenses essentielles. 50 % des revenus, 30 % aux dépenses discrétionnaires, loisirs, sorties, etc.
Et je suis pas là.
Personnellement,
Pascal, là, c'est à peu près 70 % qui vont à la maison, à l'alimentation, à l'essence, aux dépenses courantes. Là. Donc, pour ce qui est de ton 30 % discrétionnaire, je suis pas là pendant tout. Pascal est célibataire, donc probablement qu'elle est dans le 30 %.
Moi, je pourrais mettre peut-être un 35 pourrait dire.
Ben oui.
C'est pas une bonne idée.
Mais ce qui est important, c'est le fameux 20 % d'épargne ou de remboursement de dette.
Il est un peu okay. moins le fun, lui.
T'es-tu dans le 20 %?
Est-ce
d'épargne?
Que vous respectez ça? Peut-être?
Fait que, mettons, s'il te reste, oui. je sais pas, je dis un chiffron, il te reste 100 000 piastres cash à la fin de ton année, là.
Oui.
C'est une hypothèse. Parce que j'ai vu ta face, là. J'aurais dû en mettre plus.
Ça, c'est ce qui reste.
C'est ça. Il manquait au moins quelques 100 000, mais bon, continue.
Mettons qu'il te reste 100 000, tu places-tu 20 000? Moi, je suis pas capable.
J'ai pas, tu l'as dit, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'hypothèque.
Ouais.
J'ai
dans
pas
mon si budget, j'étais à peu près à 12 %
okay. mais c'est que déjà je suis capable bon, de placer. C'est ouais. déjà bon, mais je te dirais que tout ce qui est économie, j'en mets une bonne part. Là. Mais tu sais, remboursement de dette. Moi, je me suis toujours arrangé que ma seule dette, ce soit la carte de crédit mensuellement. Parce que j'ai rien d'autre. Okay.
Fait que tu rembourses okay. ta carte de crédit tout le temps.
Je rembourse ma carte de crédit, puis tout le reste, c'est en épargne.
OK. Hey, okay. C'est bon.
Hey, c'est bon, ça. Mmh. Toujours remboursé. Toujours, toujours, totalement remboursé.
Pas quand j'avais 17-18, là. On fait toutes des
non, mais
erreurs.
En ce moment, là, t'as pris l'habitude de rembourser
depuis
totalement.
Moi, ma seule dette, c'est ma maison, c'est tout. J'ai pas de dette.
Ce qui est pas vraiment une dette, on s'entend.
Bien, c'en est une.
C'est une hypothèque.
Oublie, là, mais c'est
une dette qui est peut-être pas toxique, mais qui
je
peut
la
être,
trouve pas toxique.
Ça peut être lourd. Elle peut être lourde quand même.
C'est une charge financière. Mais...
Moi, j'ai toujours dit une maison personnelle à moyen et long terme, ça devient une charge peut-être nulle. On parle d'épargne forcée souvent.
Oui, ou de... c'est une épargne forcée.
Mais dans bien des cas, la maison, des fois, coûte plus cher que la valeur qu'elle va prendre parce qu'on oublie de calculer les taxes, tous les frais.
Le gonflement de la pandémie.
Ce qu'on a mis en réparation ou tout ce qui
le
peut,
gazon,
ça peut engendrer comme frais.
Ça, c'est bon qu'on en parle, Pat, oui. parce que Yannick et moi, on s'est pas coltaillé, mais on s'est jasé par rapport à ça. Puis moi, on m'avait dit à un moment donné, fais pas ça en ce moment, ça va coûter plus cher d'avoir une hypothèque que ce que ça va te rapporter si tu décides, mettons, de lâcher un logement. Puis je trouvais ça vraiment bizarre. Puis je m'étais fait dire toute ma vie, mais non, c'est investi. Mais ça dépendait vraiment des moments dans une période en immobilier. Si j'avais fait ça à 18-19, ça aurait été extrêmement extraordinaire. Mais là, en ce moment, dans les dernières années, ce qu'on me disait, c'est que c'est pas une bonne idée pour les dépenses que tu as versus le loyer. Tu es capable de plus économiser, en mettre de côté, puis avec le fait que tu l'aies placé à un certain rendement, ça va être plus payant que d'avoir une hypothèque. Est-ce qu'on se leurre? Est-ce que je me suis fait dire des bobards, finalement? Ou...
Non, mais encore faut-il le faire, l'économie. Le différentiel, il faut l'investir. T'sais,
oui, la différence est là.
Si tu payes ton appartement à 1 300 au lieu de payer 2 400 pour une hypothèque, ben, la différence de 1 100,
faut
que tu l'investisses
c'est
comme
ça.
Il faut.
Pour que ce soit vrai, ce qui vient d'être évoqué.
Absolument.
Mais encore là, dans une autre période immobilière ou financière, ce serait peut-être pas ça qui serait le scénario le plus avantageux.
Pascal, en trois ans, ma maison, selon la Ville de Québec, a pris 300 000.
Mais ça dépend de quel contexte, ça dépend où tu es.
En trois ans, elle aurait pris 100 000. Techniquement, c'est impossible, mais selon la Ville de Québec, c'est possible. Fait que je veux dire, moi, j'ai acheté une maison en pleine pandémie, je l'ai acheté beaucoup trop cher, mais en bout de ligne, lorsque je vais la revendre, ça va avoir été un très bon investissement.
Mais quand tu vas racheter, tu vas repayer plus cher aussi.
Mais non, mais je ne rachèterai pas.
Non.
Je vais aller vivre dans un chalet là, dans le nord du Québec.
Ou dans la chambre d'amis de Pascal quand elle va avoir acheté.
Mais un des points, Pascal, c'est intéressant ce que tu as amené comme point. La maison personnelle n'est pas automatiquement, la panacée. C'est pas automatiquement un investissement. Il y a beaucoup de gens qui nous entendent en ce moment et qui disent « ça n'a pas de bon sens quand même de milliers de dollars d'intérêt que je mets à chaque mois sur cette maison-là quand tu y penses. » Puis des fois, à court terme, c'est le couple se sépare après 4 mois, 8 mois, 10 mois que tu viens d'acheter ta maison, il faut que tu casses ton hypothèque. Ça peut coûter bien plus cher que la valeur qu'elle a prise. Mais tu as fait finir ton sous-sol, tu as fait finir ton terrain, tu as payé des taxes de bienvenue.
Je comprends tout ça, Pat, mais le principe, on habite dans la même ville, toi et moi, là, dans le même secteur du moins.
Ouais.
J'ai vu à Val-Bélair un 5,5 à 1 900 $.
Pas de sens.
Je veux dire, je donnerai jamais...
Là, c'est un 5,5, là, mais il y en a...
Je donnerai jamais 1 900 $ à quelqu'un pour que lui puisse mettre ça sur son hypothèque.
Non.
Ça m'arrivera jamais.
Ça
j'aime mieux me payer moi-même.
Sais-tu, la meilleure option, ce serait quoi pour quelqu'un qui nous entend, qui dit « Moi, je veux commencer dans l'immobilier. Est-ce que j'achète ma maison personnelle ou j'investis dans le locatif? » Moi, j'irais vers un duplex, un triplex.
Oui, moi aussi.
Où tu habites.
Proprio, habitant.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Et là est toute la différence.
Exactement.
Hein?
Alors, voilà une belle façon de commencer. T'es propriétaire. Tu peux y aller aussi avec 5 % de comptant. En bas de 500 000, c'est possible. puis tu as quand même un locataire ou deux. Puis
tu commences en bas de 4 logements.
En bas de 500, en bas quatre de 4 logements. Oui, c'est ça, exactement.
Ouais, en bas de 4 logements.
Mais moi, ça devient intéressant en prêt assuré. Puis bon, tu as deux locataires. Tu peux aussi déduire le deux tiers des dépenses qu'engendre la bâtisse. Puis en cours de route, ben, tu as de l'équité. Puis éventuellement, tu pourras acheter ta maison personnelle. Puis la maison personnelle, tu sais, c'est certain que moi, je prône beaucoup pour une maison personnelle moins coûteuse. Dans le but d'être capable... Moi, dans mon cas, j'ai investi dans l'immobilier. Je dis des fois, mes locataires ont des plus beaux armoires que moi. Parce
c'est
que,
souvent le cas de la plupart des investisseurs.
J'ai décidé de garder mon petit jumelé pas cher depuis des années parce que ça me permet d'avoir la liquidité pour pouvoir investir dans d'autres immobiliers. Donc, les gens peuvent des fois mettre plus d'argent dans leur maison personnelle, mais la maison personnelle, ça restera quand même... C'est un panier de frais, énormément. T'sais, on peut le regarder de toutes sortes de façons, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de frais reliés. Et surtout la pression du couple qui doit des fois être obligé de rester ensemble d'une certaine façon parce que ça devient lourd. Ils ne peuvent pas se séparer.
Pascal, as-tu un fonds d'urgence? Oui.
Oui
ou non?
Oui.
Puis tu peux t'offrir combien de temps?
Actuellement, 7 mois et demi.
7 mois et demi?
Ma foi, c'est un exemple.
J'avais commencé à 3, puis j'en ai pas eu besoin. Fait que j'ai continué pendant toute ma vingtaine.
C'est très bon.
7 mois et demi, tu peux te toffer sans travailler.
Mais je te dirais que je vais aller moins souvent au resto, par exemple.
OK. Moi, j'ai un 3 mois. Ça a toujours été 3 mois. Ça a jamais
augmenté.
Très
bon, Yann. Ben oui.
Très bon.
3 à 6 mois. On parle de 3 à 6 mois de dépenses courantes. Évidemment, prendre un mois typique où tu dis ben l'essentiel.
Mois et demi, c'est vraiment dans des dépenses du genre j'irai en voyage.
C'est le frigidaire y pète. Les affaires, comme on dit, ça, c'est de l'argent qu'on va mettre dans un fonds d'urgence qui ne sera pas nécessairement investi. On n'investira pas ça à la bourse.
Je ferais beaucoup les gens autour de moi parce qu'il y a eu un moment où j'ai pas eu de frigo pendant.
Ouais, c'est ça. Elle peut t'offrir 7 mois, mais elle n'a pas de frigo. Elle n'a même pas de meubles dans sa
maison. Une glaçon électrique. Là.
Pendant l'hiver, non, au moins.
J'ai fait ça 4 mois parce que j'étais comme. Ah.
Ah oui, hein?
Ouais. Je vais continuer de mettre de côté autant, puis je m'en rends pas trop compte. C'était là, monde comme
un petit thé bon sur le balcon. C'est ça. Parce qu'il annonce plus doux demain. Ouais, c'est ça. Là, tu dis, je vais le manger demain.
Elle a un logement, puis elle a un sleeping. C'est tout. Mais elle peut t'offrir 7 mois.
Oui.
Non, mais t'es quand même exemplaire jusqu'à date. Ça
ben
va
là,
bien.
Là-dessus, ça a plus fait rire les gens. Mais...
C'est quoi le pourcentage que ton logement, Pat, doit prendre sur ton revenu?
Ben, c'est 30 % hein, du revenu net.
Ça, c'est l'idéal.
Idéalement, le revenu net mensuel, on pense, mettons, un revenu net moyen de couple, c'est quoi, 5 000 à peu près, là? Fait qu'on parle de 1 500, toutes frais confondues,
mais
1 500 par mois.
Quelqu'un qui travaille 20 de l'heure puis qui est à logement, c'est sûr qu'il ne rentre pas dans le 30
%. Ça marche pas.
Il est quasiment dans 60 %.
Ça marche pas. Avec les hausses en ce moment.
Il y a beaucoup de gens qui sont à 50 % présentement. Ils vont dire ils sont payés aux 2 semaines. Il y a une paye sur 2 qui s'en va sur le logement ou l'hypothèque. Évidemment, ça...
Avec les frais quand même de...
Ça a augmenté tellement.
D'électricité et tout là-dedans, là, mais ça reste que tu n'as rien d'autre de fait, là. Puis si tu as une voiture en location ou autre, bien là, ajoute à ça. Fait que finalement, dans ton mois, il y en a beaucoup qui sont dans le négatif.
Tout à fait.
Puis l'autre,
beaucoup.
Les cartes de crédit en ce moment, c'est triste, c'est difficile.
Oui. Bien moi, tu vois, mon hypothèque, là, c'est un petit peu plus que 30 %.
OK. Ouais. Okay. Elle est partagée, toi?
Oui.
OK. Plus que 30 % juste ta partie?
Juste ma partie.
Seigneur, c'est quand est-ce que tu m'invites dans ta piscine creusée?
Mais j'en ai pas.
Mais qu'est-ce que c'est que toi?
À travers ce beau budget-là, il faut économiser aussi pour la retraite. On parle ici de 10 à 15 % voire 20 % pour la retraite.
À chaque année,
quand je parle de 20 % pour la retraite, sur le podcast, des fois, je décortique. C'est pas juste pour la retraite, mais ça peut être pour des projets futurs. Hein. T'sais, c'est plate d'épargner ou d'investir plutôt pour dans 30 ans. On peut parfois investir pour un projet, peut-être, on dit dans 5 ans, 10 ans, j'aimerais ça me partir à mon compte ou à un moment donné, je veux mon entreprise, à un moment donné, je m'associe avec quelqu'un, on pense de partir quelque chose. Fait qu'on met de l'argent de côté dans le but de faire des projets aussi et non pas juste pour la retraite. Mais là, c'est de sacrifier une partie de son montant jusqu'à 20 % pour pouvoir l'enligner vers le futur. Ce qui n'est pas tellement... Émotionnellement, c'est difficile à faire. Je ne sais
la
pas
retraite,
pour vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Ça a été le concept le plus difficile à entrer dans ma tête en termes d'économie. Puis je pense que j'ai perdu beaucoup d'années en n'ayant pas mis l'argent dans le bon compte, là, mettons dans le début vingtaine, parce que je voulais pas mettre ça dans des REER. Mmh. Je trouvais ça futile, stupide. Le CELI est arrivé à ce moment-là dans le fait de gestion d'épargne pour les Québécois aussi. Fait que je l'ai vu plus avantageux là. mais je trouve ça dur. Là. Épargner pour ma retraite, là, puis voir le montant, mettons, pour faire off. Qu'est-ce que ça fait là? Ça traîne. Mais heureusement, on pourra rapper un jour. Mais le CELIAP est arrivé. En tout cas, ça, c'était.
Tu vois, moi, ma retraite de 16 à 22, puis de 22 à, je te dirais, 30, 32, je l'investis au Dagobert puis au Maurice.
Je comprends.
Puis ça ne me reviendra jamais.
Non, mais tes années non plus, puis t'en as profité. Non,
ça ne reviendra jamais.
Tu sais, Yannick, tu vas moins frencher à 73, je pense.
C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Quand est-ce que je dois considérer, Pat, que je suis endetté? C'est quoi le calcul que je dois faire pour dire, OK, là, mon taux d'endettement il est trop élevé, il faut que je fasse quelque chose?
Bien, il y a une règle, parce qu'on continue toujours dans la thématique des règles du pouce. Le 28-36 n'a pas dépassé 28% de son revenu brut pour le coût lié à son logement et n'a pas dépassé 36% de son revenu brut pour tous les dettes combinées. Alors, le fameux 36%.
Mettons 40 %
On va dire 40 %.
Fait que je gagne 100 000, j'en dois 140.
C'est plutôt, mettons, ce que tu fais par mois, ben en pourcentage qui va sur la dette, autrement dit, au service de la dette. Si, par exemple, quelqu'un fait 10 000 par mois, ben il ne faudrait pas qu'il dépasse 3 600, qui toutes dépenses combinées, là, le paiement d'auto, la maison, ce qui est pour la plupart supérieur à ça.
Pascal?
Est-ce que tu y arrives?
Oui. Mais je suis pas endetté.
Tu as fait ces choix-là aussi. Ouais. Tu as une glacière électrique. Un
bout. J'ai un vieux char.
Oui. Hein. Tu n'es pas en Porsche à chaque jour.
Ma blonde est vieille. Je suis pas endetté.
Ta blonde est vieille.
Faut mettre un peu d'humour ici.
Oui, mais non, mets beaucoup.
J'ai pas des. Tu sais, mon linge, je suis pas quelqu'un qui s'habille souvent. Ben oui, au quotidien.
Mais ça, je
vais pas magasiner souvent pour mon linge, puis j'ai pas des goûts très de luxe.
En fait, ton investissement actuel, c'est vraiment tes enfants. Tu donnes beaucoup plus à tes enfants que tu donnes à toi.
Oui.
Tu investis beaucoup plus là.
Oui, même s'ils m'ont dit qu'ils ne s'occuperaient pas de moi lorsque j'aurai besoin d'une couche.
Oui, mais je comprends qu'ils veulent pas la changer.
C'est un investissement des enfants. Oui.
Mais les enfants, c'est quand même c'est un investissement, mais c'est coûteux aussi. D'une certaine façon, moi, je trouve que les enfants, c'est quand même un bon sacrifice financier, malgré les allocations et tout ce qu'on peut dire. T'sais, il en sort beaucoup plus que si j'avais pas d'enfants. Mais évidemment, il y aurait pas mal plus de lousse. Là.
Mais c'est une superbe dépense. Là, mais... Tu vois automatiquement les fruits de ces dépenses-là. Là.
Mais il y a quelque chose de tellement émotif, il y a tellement quelque chose qui est fort, t'sais, qu'on a envie d'investir dans nos beaux enfants, bien certainement. Tu fais allusion à la voiture.
Ouais.
Je ne sais pas combien de temps qu'on dispose, mais on va aligner vers par rapport à la voiture. On parle de 20 % Idéalement, là, c'est sûr qu'idéalement, ce serait de ne pas avoir de paiement d'auto. Là, mais si,
c'est
comme
tough,
la plupart des gens, bon, éventuellement, bon, on n'a peut-être pas nécessairement. On veut pas. C'est pas qu'on ne l'a pas, mais qui veut mettre 60 000 de liquidité comme ça sur une voiture? On va prendre un plan de financement, puis bon, parfait.
Des fois, ça serait-tu mieux d'avoir une voiture usagée à chaque fois? Fiscalement
parlant, ça peut être intéressant d'être en location, dépendamment comment on est structuré, on est en entreprise, etc. Puis, excuse-moi,
voiture usagée, alors?
Oui.
La retraite est dans le stationnement.
Idéalement, moi, c'est ce que je fais. J'ai une voiture, j'ai une bonne voiture, mais c'est une 2016. Que je mets les réparations dessus, mais évidemment, bon, on va vous dire qu'il n'y a pas de paiement, mais idéalement, 20 % de mise de fonds, puis d'y aller avec un 4 ans maximum. Si on finance, ce serait un 4 ans maximum.
Okay.
Et là, attention, pour les mensualités, ne pas dépasser 10 % de son revenu. Si, par exemple, vous faites 3 000 par mois, ce serait 300 par mois maximum. Mm. T'sais, fait qu'il y a quand même des compromis à faire là.
Pas avec l'essence, on s'entend, on parle juste
non,
de l'auto.
On parle du paiement d'auto, exactement. Mais
regarde, Warren Buffett, là, l'oracle d'Oklahoma, a toujours acheté des véhicules usagés.
Oui.
J'ai dit Omaha. J'ai dit Oklahoma.
Oui.
C'est l'oracle d'Omaha. Il a toujours acheté des véhicules usagés.
Tout à fait.
C'est un milliardaire, là.
Il était bien là-dedans.
Il y avait encore son vieux.
Ben
là, c'est ça, il y avait encore son vieux Cadillac 2007.
Ouais. Sa vieille maison.
Sa maison des années 50. Mais pour terminer, on va finir fort pour la règle des 72. Des fois, on se demande, on peut-tu doubler nos investissements? En combien de temps on peut doubler nos investissements? La fameuse règle des 72, c'est-à-dire que si, par exemple, on fait du 6 % de rendement en moyenne, la règle des 72, donc ça veut dire qu'on pourrait doubler nos placements en 12 ans. Voyez-vous, 72 divisé par 6. Si on avait du 10 %, ce serait 7,2. Comprenez-vous? Donc, on peut évaluer.
Ça, c'est avec les intérêts cumulés?
Bien, avec le rendement, on pourrait. Le rendement composé, tu veux dire?
Oui.
Exactement. C'est qu'on divise par 72, 72 par le rendement projeté. Et bon, on peut parler de autour de 12 ans. Fait, lorsqu'on dit d'investir tôt, commencer tôt, bien, c'est parce que ça prend quelques 12 ans pour doubler et d'arriver à un effet de multiplication, d'exponentiel, bien, à ce moment-là, ça prend énormément de temps. Et ça, je l'ai mis à 6 % qui est un taux. Parce que 6 % même si on est sur le S&P 500, 6 % net d'inflation, net de frais, on serait pas mal dedans de l'évaluer comme ça et de le projeter sur 25-30 ans avec des années à moins 20 et des années à plus 20 et des années à 12 puis des années à 6. Mais si on fait une moyenne sur 25-30 ans, plus facile à annualiser, à ce moment-là, on pourrait envisager un 6 % net d'inflation. Donc, ça peut prendre comme 12 ans pour doubler, par exemple, pour la règle des 72 divisé par 6 qui ferait 12 ans.
Donc, c'est si vous saignez du nez.
C'est comme ça qui est le fun à savoir.
Si jamais vous. Moi, c'est des affaires que. Il va falloir que je réécoute. Il va falloir que je réécoute notre segment avec Pat Raymond. Il va falloir que j'aille voir ce que Pat Raymond nous donne
écoute,
sur ses réseaux.
Exact, son podcast. Son podcast, son idée.
Financièrement parlant, podcast, bien certainement. On a le groupe sur Facebook aussi, Questions financières. Puis, on essaie d'emmener ça de façon plutôt vulgarisée, de façon plus. Plus convivial, mais c'est certain quand on amène des chiffres comme ça en ondes, ça peut avoir peut-être égaré quelques personnes.
Ah non,
mais
c'est de se rappeler.
Plusieurs ont capté.
Plusieurs ont capté?
Oui.
Bon, je pense
il y a Marco qui dit « Moi, je suis dans la merde financièrement. »
Merci, Pat.
Faut pas se sentir coupable.
Pearl Jam, Better Man sur Boulevard.